René Leys. Octobre 1911. Il a repris tout son courage et tout son entrain. Il a tout oublié. Du pessimisme profond de sa dernière chevauchée, car il ne parle plus que femmes et fleurs et poésie adressée et reçue, et du beau temps d'automne à Peking, et de la nouvelle amitié que lui témoigne le régent depuis l'acceptation de la concubine. Voilà qui le justifie de toutes les accusations jarignoux du monde. Ce jeune homme trop sage possède, en ce moment où j'écris, deux femmes officielles dans les bras. Et quelles deux femmes ? L'une expérimentée et de bonne tradition dynastique, l'autre à peine innovée, toute prête à de nouvelles introductions protocolaires et traditionnelles. C'est pourtant moi qui dois le ramener au sentiment de la juste convenance, lui reparler de ses devoirs professionnels, de ses craintes, de son testament d'il y a 8 jours, de ses entreprises, de ses puits. Il répond, avec un mystère que je sens déjà percer à jour, au grand jour. « Oh, ce n'est plus à Tianmenhuai, les voilà maintenant dans le palais. » C'est en effet beaucoup plus sérieux. Il ajoute « Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Peking se nommait Peking ?»« Jamais. Peking, capitale du Nord. » Ça n'est pas le nom officiel. La préfecture administrative s'appelle toujours sur les papiers Chuen Tofu. Hein, c'est exact. Quand les gens des provinces parlent de se rendre à Peking, qu'est-ce qu'ils disent ? C'est vrai, ils disent seulement qu'ils vont à la capitale. Ils n'ajoutent jamais qu'il s'agit de la capitale du Nord. Alors, d'où vient le nom de Peking ? Où est-il écrit ? Je n'en sais rien. Pour la première fois depuis plus d'une année, je me demande si le nom de la ville que j'habite plus et mieux que nul de ses habitants, que j'essaie de posséder, de dominer autant et plus que l'empereur lui-même, si cette ville et son nom détiennent une existence solide, foncière, autre que légendaire et historique. Il me rassure. Les deux caractères « Peking » sont inscrits quelque part dans la ville. Et où donc ? Dans la ville intérieure, sous la route qui mène du Peitang au Peita. Oh, j'y suis passé. Très souvent. Mais la première fois avec moi, c'est moi qui vous ai montré la route. Vous n'y avez rien vu d'extraordinaire ?
Rien.
Pourtant, je m'en souviens maintenant, les écarts incompréhensibles de son cheval. Je dois donc lui avouer. Si, les écarts incompréhensibles de votre cheval. Vous n'avez pas remarqué ? Il hésite et il sourit. Que cela sonnait cru, non ? C'est bien là. C'est à ce même endroit que les deux caractères capitale du Nord, Peking, sont inscrits. Mais je dois vous prévenir que le déchiffrage est difficile. D'abord, on ne peut rien voir en été, les eaux sont trop hautes. Quelles eaux ? Vous n'avez pas senti que la route à cet endroit passe sur l'aqueduc ? Qui alimente le palais ? Non, je n'avais pas senti. Mais en hiver ? En hiver ? Tout est gelé. On ne va pas se promener sous cet aqueduc ou alors à tâtons sur la glace. Je casse à mon tour toute la glace. Je ne vois plus de rapport entre cet aqueduc et c'est par là qu'ils ont pénétré. Et du même coup, ils m'initient. Oui, toute sa peur est surmontée. C'était pourtant une belle peur et la plus loyale, celle que la volonté se dresse à elle-même. Je comprends. J'accepte ses allures compliquées. Il a maintenant à faire face à trop de bonheur à la fois. Une amitié régente, deux amours, dont l'une maîtresse, l'autre servante, un danger, 1000 et 10 000 dangers à esquiver. Il m'initie et m'admet en profondeur. Peking n'est pas, ainsi qu'on pouvait le croire, un échiquier dont le jeu loyal ou traître se passe à la surface du sol. Il existe une cité souterraine, avec ses redans, ses châteaux d'angle, ses détours, ses aboutissants, ses menaces, ses puits horizontaux plus redoutables que les puits d'eau, potables ou non, qui baillent en plein ciel. Le tout si bien décrit qu'il parvient enfin à me faire frissonner moi-même. Il m'initie et je commence à l'admirer. Il a son va-et-vient habituel, son pas quotidien. Il m'a ouvert d'un coup de bien autres palais de songes, au chemin desquels j'étais loin d'avoir passé. Ceci ne faisait point partie du plan. C'est, et j'y reviens, et j'y redescends malgré moi, c'est aussi mystérieux que la cité interdite. Et tout l'inconnu maçonné, quadruplement, derrière des murs de 20 pieds de haut, se décuple en s'affouillant à leur base d'un abîme vertical. La cité profonde en ses cavitations de la terre. J'entends, je me vois sourire. Un souterrain n'est plus qu'un tunnel manqué sans voie ferrée, depuis l'usage abusif qu'en firent nos romanciers romantiques et surtout nos ingénieurs. Ici, sous la large capitale plate, tout ce qui mord un peu la profondeur est inattendu, plein de troubles. Et son étonnante habileté à faire cabrer son cheval, cette mystique bête, issue tout droit d'une apocalypse mongole, avec pédigré improvisé aux courses à l'européenne de Tianjin Bank & Co., aux prises avec la divination que les poètes et les théosophes ont prêtée, faute de mieux, à cet animal obtus. Ce cheval, ce cabrant, avec cet à propos sur ce terrain qui sonnait vraiment creux. Je me souviens de la scène. C'est ensuite qu'il m'a conduit à travers l'extraordinaire promenade révélatrice. Il est curieux que je m'en souvienne à ce point. Le premier jour où je l'ai retrouvé hors de chez moi et de chez lui, où je l'ai véritablement trouvé, cela sonnait creux. Et au moment où je vais lui faire part de mon admiration à son égard, de mes craintes, et des moyens de police préventive que je lui suggère, il prononce négligemment « C'est prévu. J'ai donné ordre de murer cet aqueduc. J'ai dit que l'eau qui passait par là était sale et que les Européens ne buvaient plus que de l'eau en bouteille, par mode, ou bien de l'eau de pluie, bouillie et battue dans un bol. » Fort bien, hygiénique, ingénieux, et triplement plein de prudence. Toute révolte est ainsi par avance étouffée dans ses voies d'accès. L'Empire siège sur sa sécurité. 11 octobre 1911. Fait divers dans le journal pékinois. Révolte dans la province du Hubei. La 10e division, caserné à Wuchang, vient de brûler le yamen du vice-roi. Le vice-roi, comme il sied, est en fuite. Les révoltés se sont rendus maîtres de l'artillerie et bombardent les forts de Hanyang. On commence à s'inquiéter dans les concessions européennes de Hankeu. Ces trois villes, ou plutôt cette triple cité, beaucoup trop célèbre en Europe, par cette qualité de centre ombilical de la Chine que lui confèrent, avec 8 millions gratuits d'habitants, les anticipations de Wells, ces trois villes sont, en effet, qu'on le veuille ou non, des localités à prendre en considération dans la politique chinoise. Et d'ailleurs, la révolte est du type militaire, avec fusils à chargeur et artillerie, beaucoup plus grave encore que le mot historique « ceci est une révolution ». Il ne peut y avoir révolution en Chine, à peine une rébellion. Cependant, il me faut en parler à René Leys. Lui seul peut me fixer sur l'importance de l'émeute. Lui seul sera directement en cause si l'on s'en prend au gouvernant dynastique du trône. Après tout, comme chef de police et amant de la reine impératrice, lui seul, dirais-je, est doublement ou décuplement payé pour ça. Je saisis donc la propos de sa présence pour attendre, sans le questionner, son avis là-dessus. C'est en grand mystère qu'il me rejoint. Il s'agit beaucoup moins d'une date européenne quelconque, le 11 octobre 1911, mon anniversaire, paraît-il, et la fête de ma 35e année, que de célébrer à la chinoise le dit anniversaire. Il prétend me donner le spectacle, non pas au théâtre, mais chez moi. Il est tout heureux de son idée. Il me promet des acteurs de première classe, la mieux rétribuée, et me donne le titre de la pièce, « La rencontre dans le champ de mûrier ». Il a déjà payé mes domestiques pour dresser, contre le mur ouest de ma cour, une estrade. Et il s'en va, repris d'une gaieté de bon aloi que je n'ai pas ressaisie chez lui depuis longtemps. 2 heures après, il est de retour, précédé d'un quatuor de musiciens, avec le violon à 2 cordes, les claquettes, le gong, empereur de tout orchestre et une sorte de chalumeau dont le son grave précède les entrées de princes. Lui-même, enfin, accompagné de 16 amis. Ils me font plaisir à revoir. Le gros bon garçon est le énième neveu du quantième de nos princes. Toute la troupe a disparu déjà dans un appentis qui sert communément de remise au harnais. En quelques instants, l'orchestre, occupant le fond de la scène, s'accorde avec un grand bruit discordant. Et tout à coup, devant moi, unique spectateur, le spectacle commence. Cela représente, ah, cette fois je sais bien, la troupe de René Leys et de ses amis. Nouvelle organisation policière, sans doute. Ils évoluent, ils pirouettent, ils jouent avec une précision professionnelle. Là encore, il y a des combats, mais obligatoires. Des entrées, des reprises, des méprises, mais par principe. Grâce à l'initiation bien retenue, je sais très exactement l'instant où il faut applaudir. Et je pousse énergiquement à propos le rao guttural qui tient lieu de toutes les claques parisiennes, de tous les sifflets américains. C'est en effet très aimable à lui de me donner ainsi le théâtre à domicile. Je ne marche en 2 points, mais rao. Quand il me rejoint, modeste, la figure lavée des fards, un peu en sueur, fier et satisfait, je devrais tout d'abord le complimenter. Mais un je ne sais quoi m'a déplu, m'a déconcerté. Pourquoi lui cacher ce que je pense? Je le lui dis. Quelque chose de cabotin, de très mauvais aloi, surtout en Chine, m'a déplu en lui. Il répond, très sûr de lui-même. C'est qu'elle aime tant le théâtre. Elle m'avait fait promettre d'apprendre ce rôle. Vous me dites que j'ai bien joué. C'est tout ce qu'il me faut, devant vous. Mais je dois jouer devant elle, après-demain. Elle, et je répète indiscrètement tout haut, devant elle, laquelle, devant qui? René Leys n'hésite vraiment pas. « Devant ma première, l'autre n'a rien à demander. » Heureux et victorieux jeune homme qui numérote ses amours. Que la polygamie règne au milieu des plus saintes fonctions de l'État. Je ne l'aurais point imaginé réduite en ses facteurs impériaux à la seule arithmétique. Et pourtant, René Leys a raison. Par décence, la jeune concubine offerte, acceptée, possédée, demeure le numéro 2 inscrit en sa colonne dans cette comptabilité nouvelle. Et, sérieusement, je voudrais le prendre à partie, le réduire au même dénominateur, au même facteur, mais révolutionnaire. Qu'est-ce que l'on dit au palais de ce qui se passe de nos jours, de ces jours que nous vivons, dans la triple ville de Wuchang, Hanyang et Hankeu? Mais il s'en va, d'un pas léger, ayant baissé le rideau sur le spectacle. Geste intraduisible en langue de théorie chinoise. Il a conscience d'avoir très bien rempli son rôle devant moi. Il est assuré de jouer sans crainte désormais pour elle. Il s'en va d'un pas satisfait. Le reste, la révolte du Yang, à 1000 kilomètres exactement dans le sud, est un peu distant et, vu d'ici, centre de la cour et des élégantes manières de théâtre, un peu provincial. 13 octobre 1911. Il faut absolument que je le voie, en dehors de tout geste de théâtre. Ça va très mal pour ses amis les Mandchous dynastiques. J'espère que le sud extrême, cette espèce de colonie tropicale qu'est le Kwantung, travaillé et maladroitement soulevé par Sun Yat-sen, ne bougera pas. Mais toutes les villes du centre s'agitent. Toute la vallée de l'immense Yangtze, du Tibet à la mer, et les grosses villes pendues le long de son cours bourdonnent et sèment comme des ruches, selon la comparaison déjà fatiguée par 400 ans de littérature historique chinoise. Je l'ai, non pas vu, à peine entrevu, au moment qu'il montait en un char spécialement envoyé par l'impériale spectatrice. Déjà, il était costumé, et véritablement fort bien costumé en princesse mandchoue, mais en portant la veste de cheval, la prétexte, le palladium, un zaïmph qui doit lui assurer partout ses entrées, les petites et les grandes, et lui ménager, tel un matelot mêlé de shahabarim, des dérobades sans danger. J'ai à peine le temps de comprendre sa réponse, rassurante. « Vous troublez donc pas. On vient de mettre en route sur Hankeu une bonne demi-brigade de troupes impérialistes. Surtout ne parlez pas de révolution. Ce sont des histoires de rebelles. » Voilà qui me semble avoir été déjà dit, mais à rebours, il y a quelques 120 années, et assez malencontreusement. 14 octobre 1911. Après tout, j'ai promis de l'aider. Je joue dans son jeu. Je prends parti. Le parti de nos Mandchous aux belles cités interdites. Et j'observe les règles du jeu. J'étudie de nouveau par avance la marche de chacun des pions. Que ce soir d'hiver approchant est tout d'un coup froid et désolé. Cependant, c'est pour lui et notre parti que je sors vers Tianmenhuai, dont les alentours comprennent non seulement les quartiers d'ivresse et de plaisir, mais la gare principale, la tête de ligne du chemin de fer franco-belge-chinois de Hankeu-Peking. Je tiens à surveiller par moi-même la mobilisation des troupes impérialistes, fidèles, et, par décret, victorieuses, avant peu, des rebelles. La grande porte est encombrée d'artilleurs cherchant à rejoindre leurs canons et d'une cohue de coolies s'efforçant d'embarquer les caissons, le tout revêtu de couleurs allemandes que les taches rendent invisibles, efficacement kakidois et beige sale. Telle est la demi-brigade destinée à soutenir, là-bas, bien loin, au fond de la province, à la fois le trône et l'autel. Que ces gens qui partent pour la guerre me semblent gais, inoffensifs et encombrants. Voici que leur troupe un peu molle est soudain traversée d'une bande joyeuse venant de la ville tartare, passant la porte, destinée sans doute à Tianmenhuai, où elle tend, où elle promènera de porte en porte, de maison en maison de thé, la cadence de sa future ivresse. Dieu de la guerre! Et toi-même, Quanti Barbu, c'est la charmante société de jeunes gens, bien appris, dont René Leys m'a valu l'amitié, et lui-même, en personne, au milieu d'eux. Évidemment, il vient, comme moi, très habilement entouré, surveiller l'embarquement. Non. Il me prend très mystérieusement par manche européenne. Figurez-vous qu'on allait se tromper de boue. Ce ne sont pas les émeutes de Wuchang qui pressent. Savez-vous ce que je viens de découvrir? Ici, à Peking, dans la ruelle aveugle, au sud du Liku Lichang. Non, vraiment, je ne puis accepter. Ce qu'on a découvert est un peu trop anodin pour les temps que nous allons vivre. Il y aurait, paraît-il, une reprise du mouvement réformiste de Kang Yeouei, l'ancien conseiller de Kuangxiu, et 2000 étudiants, munis de ces dogmes, seraient en marche pour battre la campagne autour de Peking. Non, vraiment, je n'accepte plus. Il y a là-dedans, ou bien cécité politique soudaine, comme l'hystérie de l'autruche, ou bien mystification intéressée dans laquelle je ne tiens pas à jouer de rôle. Je l'interroge assez brusquement. Et les deux télégrammes de canton qui viennent de parvenir aux légations européennes, je les ai vus. Le chancelier ne m'a pas demandé le secret. Les consuls de là-bas annoncent, en dehors de toute nouvelle de source chinoise, que les trois provinces se proclament en république. Elles n'ont peut-être pas beaucoup de vrais soldats, mais elles ont des têtes, des otages et pas mal d'argent. René Leys revêt le mutisme très digne qui précède les grands aveux. « Enfin, que pense-t-il de tout ça, ton ami Chuen, fils du septième prince et régent ?» Il lui faut bien répondre. « Le régent n'en sait encore rien. Personne n'a osé le lui dire. » On a donné des ordres en conséquence. Le ministre de la guerre est parti pour la guerre. Bien, les ordres sont donnés. Des troupes régulièrement payées prennent la route du sud. Il fait une belle nuit d'automne expirant. Pourquoi me préoccuper de ce Sun Yat-sen exotique, aussi nègre pour le digne chinois de la Wei ou le blême conquérant de Mandchourie, que serait un Wolof métissé d'Arbi s'agitant à Dakar, quand le pouvoir impérial siège à Dunkerque sous les espèces d'un Norvégien. Et de plus, pourquoi René Leys, qui devrait être à son travail de nuit, bureau de la police secrète, ou dans son lit, si c'est son tour de repos, ou dans d'autres lits que le sien, pour la nuit jaune? Pourquoi René Leys se dirige-t-il ainsi en liberté dans ces lieux que sa police précisément tolère? Ce n'est plus l'heure de le lui demander. Les soldats nous rebousculent au passage, refluant de la gare sur la ville. Ils ne partent plus. On rentre au quartier et devant cette sérénité qui succède au tumulte, je songe que peut-être les choses ont été exagérées, là-bas, par nos consuls, et que, selon leur habitude, les Européens ont encore grossi l'une de ces émeutes que la Chine absorbe, digère et éructe de temps à autre comme un immense intestin ses borborygmes et ses vents.